Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu rapidement ce que tu fais et ton parcours et on voit où on va d'ici là?
Eh bien, je m'appelle Marine Gresser et j'ai fait l'école à Bordeaux et aussi la sixième année à Paris-Malaquais. Et en fait, j'ai fait une césure d'une année entre la quatrième et la cinquième année qui m'a permis de rentrer sur le chantier, donc le chantier de l'hôtel de ville de Montpellier. Et vraiment, là, j'ai adoré. Je pressentais que le chantier, ça allait me plaire, mais vraiment, j'ai adoré cette expérience-là. Et j'ai eu l'intention dès le départ dans le monde professionnel de me dire je vais faire du chantier, c'est trop bien. N'ayant pas de parents architectes, j'ai un peu toqué aux portes et je me suis heurtée à la réponse systématique où on dit mais tu peux pas faire de chantier, t'as pas l'expérience. Et en plus, tu es une nana, donc ça, j'en avais un peu. Je cochais les mauvaises cases. Et en fait, j'ai commencé à bosser un peu dans une agence en dessin et au final, j'ai eu la chance d'être rappelée par le chef de projet de l'hôtel de ville de Montpellier où je lui avais dit vraiment si tu as un chantier, j'ai trop envie d'en faire. Et il m'a dit viens, on va faire le chantier de la gare Montparnasse et tu vas venir dès la phase d'études, comme ça tu connaîtras parfaitement le projet. Et tu pourras te lancer, tu pourras intégrer l'équipe travaux avec une connaissance parfaite du dossier, sans avoir bien sûr l'expérience. Et donc, tu acquerras ce métier, cette partie-là du métier à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du chantier et j'ai fait une petite dizaine d'années que de chantier. Donc, j'arrive après la phase conception et je fais tout ce qui est direction de travaux. J'ai fait comme ça plusieurs gares, dont la gare de Pont de l'Alma. Mais après, je suis allée dans d'autres agences qui, du coup, sur des gros projets, parce que les archis spécialisés en exécution, c'est pas sur les petits projets. Et donc, j'ai plutôt navigué comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis prof à l'école d'archi de Versailles sur le volet chantier en sixième année. Voilà.
Du coup, c'est la transition, elle a été directe entre des petits projets à des gros projets, vu que tu faisais de l'exécution.
En fait, pour faire que la maîtrise d'œuvre d'exécution, et c'était mon souhait, c'était pas du tout de faire le volet conception et après le volet exécution. Fallait être quand même sur des chantiers d'une assez grande envergure parce que tu as un volume qui fait que tu peux être spécialisé là-dedans.
D'accord. Tu dirais que ça t'a apporté quoi en particulier? Parce que j'imagine que maintenant, tu m'as dit que que t'es plus forcément que dans de l'exécution de chantier, mais que tu reviens un peu sur le pôle conception.
Eh bien, non, maintenant, je suis en maîtrise d'ouvrage. Je suis passée en maîtrise d'ouvrage parce que je suis. Et pour arriver encore plus en amont au niveau programmatique, mais je fais toute la gestion des projets en tant que responsable technique sur justement essayer de prévenir au maximum, faire des analyses de risque sur les projets pour prévenir au maximum tous les aléas qu'on pourrait rencontrer. En phase chantier et orienter en fait les projets dans ce sens-là et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et alors attends, j'ai oublié ta question. Tu m'aides
Non,
bien?
tu sais quoi, je vais faire un peu le parallèle avec ton cours, parce que je pense qu'une des choses que j'aimais le plus dans les cours, c'est vers la fin des cours, tu nous faisais des parallèles où tu nous montrais des vidéos, et notamment sur le dernier cours avant le partiel, où on était plus sur l'esthétique du chantier, la politique du chantier, et des gens qui étaient vraiment passionnés justement sur tout ce qui touche autour. Peut-être qu'on pourrait un peu rentrer dans cet univers-là et ce que représente le chantier pour toi.
Oui, c'est ça, c'est tout un monde en fait. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le chantier, c'est le facteur humain. J'ai du mal à rester toute seule à dessiner derrière un ordinateur. C'est pas quelque chose qui m'anime. Et ce que j'ai beaucoup appris, et c'était ça ta question à la base, c'est ce que j'ai beaucoup appris sur le chantier, c'est la réalité concrète, factuelle, matérielle en fait de l'architecture. Plus rester sur un trait qui veut rien dire, mais se dire, ce trait-là, ça engendre ça pour tel corps d'État, ça veut dire ça, et c'est cet effet architectural-là que je veux. Donc, il y a une sorte de prise de conscience de la réalité de l'art de bâtir qu'est l'architecture qui m'a paru super qui m'a vraiment attirée dans ce monde-là qui, je trouve, malheureusement, est vraiment pas abordé pendant nos études. Et
Totalement toi.
ouais, et il a une grande valeur. Et en fait, quand j'ai commencé à faire que de la direction de travaux, j'ai plein d'amis architectes qui m'ont dit « Ah, mais t'es plus architecte !» Et c'est là où je suis pas du tout d'accord. Pour moi, un architecte, il est à tous les stades. Il devrait être beaucoup plus présent sur des grandes commissions décisionnelles comme dans des décisions européennes ou des choses comme ça où on va rencontrer des avocats, des médecins et tout ça, mais les architectes sont absents. Il devrait être plus en maîtrise d'ouvrage pour que les maîtrises d'ouvrage soient plus conscientes des enjeux que sont les enjeux architecturaux. Il devrait être plus partout et un peu casser cette image d'épinal qu'on a de l'architecte concepteur star, le grand dieu qui a la super idée que personne n'a jamais eue. Et je pense on a tout intérêt à être sur toutes les strates pour, en fait, avoir une vision beaucoup plus large de l'architecture, de se dire il n'y a pas que l'architecte dans l'acte de bâtir. Il y a ceux qui construisent, il y a ceux qui financent, il y a ceux qui font les programmes, il y a ceux qui gèrent l'économie du projet. Et ça, trop souvent, on se dépossède en tant qu'architecte de ça, alors que eh ben, sans tous ces acteurs-là, eh ben, on ne fait pas de projet. Et c'est dommage parce que du coup, l'architecture en pâtit directement.
Et surtout que j'ai l'impression que quand on conçoit sans prendre en compte le chantier, ben on n'est pas au courant des réalités. Enfin, je m'explique. C'est que là, en ce moment, je suis dans une agence qu'on ne va pas citer, où on est beaucoup dans le concept, beaucoup dans l'archi un peu star, ce genre de choses. Et ce qui fait que très, très tôt dans la conception, on oublie la réalité. Et ce qui se passe, c'est que quand on arrive dans les phases pro, dans les phases d'après, bah, le projet, on est obligé de revenir en arrière, de casser le projet parce qu'on n'a pas du tout pris en compte des réalités constructives et de se dire bah, derrière, c'est des gens qui vont construire. Et ça, c'est peut-être totalement à l'inverse de là où je parlais beaucoup en fait, avec mes précédents invités, c'est la notion de frugalité, de construire local et de ce genre de choses. Et moi, j'ai l'impression que justement, se reconnecter au chantier et au concret et à la réalité, ben c'est peut-être revenir à des notions plus de frugalité.
Ouais, exactement. En fait, la question de la frugalité, c'est la justesse des choses. C'est-à-dire, c'est mettre l'énergie au bon endroit, au bon moment et pour le bon usage, en fait. C'est pas, on n'est plus dans j'imperméabilise des zones entières, je fais une promotion immobilière où je vais vendre tous les lots et machin et tout ça. Là, on arrive sur un modèle qui est en train de se casser la gueule. Et donc, il faut un peu réinventer ça en se disant comment on peut travailler au plus juste pour les habitants, ok, mais aussi pour ceux qui financent parce que sinon, il n'y a pas de projet. Et du coup, il faut un peu mettre en synergie là, tous ces acteurs de l'acte de construire. Et c'est en ça où je pense que l'archi devrait s'ouvrir plus la tête et plus les portes à dire je peux avoir une utilité à différentes strates du projet et pas qu'en conception sur un logiciel 3D, trop bien, bim bim, feu d'artifice. Il n'y a pas que ça en fait. C'est important de faire rêver et la question de l'architecte, le narrateur qui raconte une histoire, qui raconte un projet, elle est fondamentale pour justement solidariser tous ces acteurs de l'acte de construire. Mais elle doit être empreinte d'une certaine réalité que du coup, tu vois, moi je trouve... je retrouve sur le chantier.
En vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, je suis un peu dans cette démarche de trouver où est-ce que je pourrais intégrer le monde du chantier. Au moins, mon expérience de chantier, elle est plus au Maroc, où là, on a encore un architecte, en tout cas sur des projets de moyenne échelle, qui va tous les jours sur le chantier, qui fait partie du chantier et qui sait que ce qu'il construit, au final, des gens vont répéter dedans. Donc, il faut que ce soit un minimum bien fait et bien suivi. Mais en France, j'ai l'impression que c'est un peu plus inaccessible. En tout cas, dans la plupart des agences parisiennes que j'ai cherchées, la plupart, en fait, choisissent de délocaliser, entre guillemets, le suivi du chantier. Et tu sais, dans mon audience, il y a beaucoup d'étudiants architectes qui nous écoutent. Et du coup, si tu avais une chose à leur dire par rapport à ça, en fait, eux qui auraient envie de rentrer dans le monde du chantier, tu leur donnerais quoi comme conseil ?
Eh bien, déjà, si vous avez envie, c'est hyper important, il faut suivre ses envies. Donc, continuez à y croire et vous allez y arriver au bout d'un moment. La manière dont je suis rentrée, j'ai trouvé qu'elle était super maligne et je remercierai jamais assez ce chef de projet qui m'a dit, fais toute la conception, comme ça tu connais par cœur ton projet et comme ça tu peux apprendre ce que c'est le chantier. Parce qu'en fait, quand très souvent, il y a un changement d'acteur entre la partie conception et la partie construction, et les gens qui arrivent en construction, ils apprennent le projet au démarrage, donc ils connaissent pas toutes ces subtilités. Et donc toi, quand tu as cette connaissance très forte du projet, bah tu as déjà un gros atout par rapport à tous les autres acteurs, tu connais tout par cœur. Donc ça, c'est vachement bien. Et j'ai une chance infinie sur ce même projet, c'est d'être avec quelqu'un qui était... d'être adjointe directrice travaux avec un directeur travaux qui était génial et qui m'a appris tout le métier, en fait, et qui m'a permis de me former sur le tas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, alors peut-être qu'il y en a, mais j'en ai cherché et j'en ai pas trouvé ou j'en ai suivi que j'ai trouvé très moyenne des formations sur le chantier. Très souvent, c'est appris sur le tas. Donc, en fait, c'est trouver des agences qui... Ou alors aller dans des agences qui sont spécialisées en maîtrise d'exécution en disant, en acceptant de rentrer au bas de l'échelle et de dire, ben, moi je vais apprendre, apprenez-moi, je suis demandeur. Et ça, on cherche toujours des gens pour suivre le chantier. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que ben, y a le facteur humain qui est super dur à gérer. Ça, faut pas se le cacher. Et donc, quand tu as cette dextérité-là sociale, tu arrives beaucoup mieux à rentrer dans ce monde-là qui est. C'est quand même vachement moins dur à gérer un conflit entre 10 personnes autour d'une table que d'être devant ton ordi à faire le dessin. T'as moins de choses. Et du coup, ben, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui aiment faire du chantier. Donc déjà, faut pas hésiter à se lancer, à dire moi j'ai envie de faire et d'aller voir les gens qui font. Pas de, tu vois, si tu me dis, prenons l'exemple de ton agence qui dit qui a l'air de ne pas avoir une posture très engagés au niveau du chantier, ben c'est peut-être pas là où il faut aller. Il faut aller vers des gens qui sont engagés au niveau du chantier et de dire je sais pas mais je vais apprendre. Et ça c'est trop bien. Il y a des agences qui ont des pôles chantier. Il y a des et on cherche toujours des gens qui ont envie d'apprendre parce que en fait faut y aller. Faut un peu manger de la poussière. Hein. On a parlé de l'esthétique de la poussière dans le cours, mais faut quand même un peu manger la poussière et faut avoir cette volonté-là. Et si tu l'as. Eh ben, faut pas lâcher l'affaire, faut y aller, on a besoin de toi. Faut se dire ça.
Oui, non, mais en vrai, je suis complètement d'accord. Et même, il y a un truc que je trouve vachement intéressant, c'est tu parlais du facteur humain. Et j'aimerais bien que peut-être on en parle un peu plus de ce facteur humain et de. Bah, je sais que toi, tu as à cœur de casser un peu cette espèce d'image de l'architecte au-dessus de tout et plutôt de rentrer dans un esprit de collaboration et de confiance plutôt que de confrontation sur un chantier. Parce qu'on a un peu, on pourrait un peu avoir cette image de ah, mais forcément, je vais m'embêter avec les ingénieurs, je vais m'embêter avec les bureaux de contrôle, je vais m'embêter avec les ouvriers, je vais m'embêter avec plein de gens. Alors que je pense qu'au final, ce n'est pas du tout ce qu'on veut.
Alors, je pense que dans toute organisation humaine, partir du principe qu'il faut respecter l'autre et son caractère et ses enjeux est un élément fondamental. Et oui, si, on a tous des enjeux différents sur un chantier. Et c'est hyper important. Et enfin, moi, j'ai que gagné. En essayant de comprendre les enjeux de tout le monde et de les prendre en compte. Ça m'a jamais desservi. Et ça, c'est hyper bien aussi parce que tu apprends plein de choses. Parce que si c'est les enjeux de quelqu'un, tu n'as peut-être pas tout saisi et le laisser s'exprimer et lui dire, OK, on le prend en compte et on y va. Et en fait, on fait une espèce de... Mais on fait prendre la pâte du chantier, là, pour que ça fonctionne et qu'on ait le gros gâteau à la fin, là. Et du coup, ça, c'est hyper important, en fait, de se dire, ben... Pour moi, l'architecte, il n'est pas au-dessus. Pour moi, l'architecte, c'est celui qui a la vision globale du projet. Donc, c'est celui qui va fédérer, c'est celui qui va créer la synergie entre les acteurs. Et si tu ne comprends pas, quelque part, quand je dis enjeu, c'est les problèmes de chacun, pour être plus généraliste, si tu ne comprends pas les problèmes de chacun et que tu ne les prends pas en compte, ben, tu ne peux pas être l'élément fédérateur.
Et ouais, donc en fait, la mission du fédérateur, elle reste. C'est ce qu'on devrait garder en tête. On est là pour essayer de partager notre passion autour d'un projet pour qu'on puisse le réaliser.
Bah exactement, partager la passion, partager ta vision de l'architecture. Si tu dis, si tu imposes quelque chose, elle va être plus difficilement applicable. Toi, tu vas devoir mettre beaucoup plus d'énergie parce que tu ne seras pas dans le projet commun, tu seras dans ton projet. Et le projet, pour moi, il ne peut pas être le tien. Il est forcément commun parce que tu crées pour les autres, en fait. Tu crées de l'espace pour les autres. C'est ton savoir-faire de l'art de bâtir. C'est l'art de bâtir pour les autres. On ne va pas se faire 367 maisons dans notre vie. Ce n'est pas le but. C'est plus de faire la maison commune de tout le monde où chacun trouve son espace, en fait. C'est pour ça que, pour moi, cette démarche-là, elle est juste. Mais elle est très personnelle.
Elle est très personnelle, mais tu sais, pourtant, je la retrouve chez d'autres architectes. Il y a 2-3 mois, j'ai interviewé Harrison Delcroix de Delcroix Associés. Il a aussi la page Instagram Quotidien d'architecture. Et en fait, même il l'écrit dans son bouquin, il a réalisé que simplement essayer de se mettre à la place de l'autre et poser des questions et lui faire savoir qu'on est prêt à l'écouter parce que c'est lui le professionnel et qu'on a besoin de son expertise, ben ça lui a débloqué des centaines et des centaines de positions. J'ai l'impression aussi, ce qui est compliqué pour peut-être au niveau des architectes, c'est d'arriver et de mettre un peu son ego de côté. Et quand on ne sait pas, ben des fois, peut-être oser demander aux professionnels comment que ça se passe.
Alors, on a un gros problème, nous, c'est qu'on a, que je trouve magnifique en même temps, c'est qu'on a appris l'architecture. Mais on est les seuls à l'avoir appris. C'est un truc basique pourtant, savoir habiter. C'était tous les jours dans de l'espace. On devrait, tu vois, comme la philosophie, on l'enseigne en terminale. L'architecture, ça devrait faire partie du corps, du corpus commun, en fait, de l'école jusqu'au lycée. Et donc, en fait, on est seuls à avoir ce savoir-faire et à avoir ce langage-là. Et donc, il faut faire tout ce travail-là de, OK, alors si je veux être audible, il va falloir que je fasse passer les choses. Et la meilleure manière de faire passer une information, c'est de parler le même langage que la personne que tu es en face. Si on parle des langues, par exemple, si je suis face à un espagnol, il faut que je lui parle. Enfin, la meilleure manière de me faire entendre, c'est de parler en espagnol, au final. Et ben là, c'est un peu la même chose. Le langage architectural, c'est quelque chose de très spécifique. Et c'est important de comprendre comment parle l'autre pour lui parler avec, lui faire comprendre ce que je vais exprimer avec ses mots, en fait.
Mais carrément, ça, c'est un truc, j'ai entendu dans beaucoup de podcasts que j'écoutais qui ne parlaient pas forcément d'architecture, mais qui parlaient en fait de la malédiction du savoir. C'est qu'en fait, parce qu'on étudie, parce qu'on apprend des choses, bah, instinctivement, on se dit « Ouais, mais ça, c'est acquis. Ça, tout le monde le sait. » Alors qu'en fait, on est dans notre petit cocon d'architecte et on se rend compte que bah non, c'est pas évident. Et justement, il faut savoir... Moi, c'est pour ça que je fais ces podcasts, c'est pour ça que je fais mes vidéos et ce genre de choses, parce que j'ai envie de... Déjà, en fait, quand j'ai commencé, je me suis pris un mur parce que j'étais trop technique sans m'en rendre compte. Alors que quand j'ai commencé, j'étais juste un étudiant et je n'avais pas forcément la prétention de savoir des choses. Et donc, je trouve ce que tu racontes, et c'est super important en fait, de le partager à plus de monde possible. Parce que la malédiction du savoir, il faut se rendre compte qu'elle existe. Je vois déjà que ça fait à peu près une vingtaine de minutes qu'on a enregistré le podcast et je sais que tu n'as pas non plus énormément de temps. Donc peut-être on fait un petit mot de la fin. Je me disais que ça aurait pu être marrant si tu nous racontes une anecdote de chantier, mais une anecdote qui te semble soit intéressante, soit marrante, enfin quelque chose qui t'a peut-être touché ou qui t'a peut-être un souvenir sympa, quoi.
Ouais, alors un souvenir sympa, c'était quand j'ai fait j'ai travaillé sur la rénovation de la gare Montparnasse. Et on a dû gruter les groupes froids tout en haut de l'IGH qui est au-dessus de la gare, parce qu'on a un local technique tout là-haut, de manière hyper logique, mais c'était comme ça. Et en fait, on a mis des mois à avoir l'autorisation de mettre la grue qui allait gruter ces fameux groupes froids sur la zone où il y a tous les bus aujourd'hui. Donc on a dû dévier, je ne sais plus, c'était 6-8 lignes de bus. Enfin, ça a été un sacré chantier rien que de dévier les bus. Et on s'est retrouvés, il y avait une nuit de grutage, je crois, ou deux. Enfin, et la première nuit, c'était un peu le crash test, quoi. Et on n'avait pas beaucoup de temps parce que, bah, en fait, c'est un point central de Paris, il y a énormément de gens, donc on pouvait gruter que la nuit. Et en fait, je me suis retrouvée tout en haut de l'IGH à observer le grutier qui était en bas, qui n'avait aucune visibilité sur ce qu'il faisait. Et je ne sais pas comment il s'appelle, l'assistant grutier, qui était au taki-walki et en gros qui guidait au centimètre près pour qu'il pose le groupe froid au bon endroit. Et en fait, il y avait cette sorte de... Il parlait hyper doucement. Et il y avait cette sorte d'intimité, de trucs hyper précis entre les deux gars où tu te dis, mais on sait n'importe quoi, il y en a un qui ne voit pas et l'autre qui pose. Et nous, on était 4-5 en haut à regarder ça et on avait une vue incroyable sur tout Paris qui dormait. Et c'était, enfin, c'est des moments comme ça qui sont à la fois hyper poétiques, hyper beaux humainement, parce que tu te dis, bah, il n'y a pas ces deux personnes. Bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mécanisées, mais là, on ne peut pas le faire, en fait, parce que c'est trop quelque chose de précis et d'inexistant dans une chaîne de production en chaîne. Et c'était assez magique, parce que tout le monde était trop content, ça s'est hyper bien passé. On a mis énormément d'énergie à juste faire ce moment-là, et c'était un peu une consécration incroyable.
Ah, mais waouh! Tu vois, rien que de t'entendre parler de ça comme ça, ça donne envie d'aller tout de suite. Bon, il est où le chantier où je peux bosser là tout de suite?
Ça va, il faut y aller. Hein. Moi, je vous invite, allez-y, c'est trop bien. C'est dur, mais c'est bien. Et ça a du sens. Et ça fait du bien quand les choses ont du sens.
Ah, voilà, j'ai envie de dire, si c'était facile, à quoi bon? Parce que forcément, les choses qui nous plaisent, il y a de la difficulté. Et en chantier, il n'y a rien de plus difficile, mais en même temps. C'est un peu l'exemple parfait de l'entraide humaine. Enfin, de l'entraide humaine.
C'est ça, et c'est hyper satisfaisant, en fait. Quand tu y arrives, quand tu es au beau et que tu dis on a réussi à se mettre d'accord et le projet est beau et les gens sont contents, bah, c'est gagné, quoi.
Ah, ça, c'est magnifique. Je trouve que c'est une note excellente pour finir un peu l'interview. Bah, Marine, merci beaucoup. Est-ce que
avec plaisir.
Tu aimerais partager des choses où on pourrait te suivre ou, faire un dernier petit coucou aux abonnés.
Alors moi, je suis pas du tout connectée. Moi, je suis sur le chantier, je suis pas connectée.
Eh bah, ben parfait. Bah, peut-être que si vous êtes sur un chantier et que vous la voyez, vous lui ferez coucou de ma part.
Ah, par contre, il y a pas de problème. On peut aller prendre des cafés quand vous voulez.
Ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi.
Encore une fois aussi, merci pour les cours que tu fais pour la HMO à Versailles. Parce que, franchement, moi, je m'éclate à chaque fois. On dirait pas derrière nos écrans Teams ou ambiance de l'amphi, mais on en apprend tellement. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. C'est nous, les étudiants, quand on sortait du partiel, on disait, bah, franchement, s'il y a un truc qu'on kiffe bien, bah, c'est les cours, on les trouve d'une qualité bah, folle. On apprend vraiment des choses qu'on a toujours voulu savoir.
Et bah, c'est génial. Et bah, je suis trop contente. C'est le but et je suis ravie. Allons-y tous sur le chantier,
Allons-y tous sur le chantier. Et là, je vais faire un peu mon moment influenceur. Si le podcast vous a plu, mettez 5 étoiles sur Spotify, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Deezer, partout, parce que ça aide le référencement. Il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent d'archi, on est posé tranquillement et on dit les termes. Donc, je vous remercie d'avoir écouté le podcast juste là. Et puis, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et faire un petit coucou.